Foi et turbulence. Un regard contemporain sur les multiples dimensions de la foi. Coordonnateur Louis Le Sage.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette émission de la série Foi et turbulence. Au microphone, c'est Francine Robert. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un professeur de l'Université de Neuchâtel en Suisse, Madame Lita Basset, que peut-être certains d'entre vous connaissent, soit par ses livres, soit par la fréquentation du Centre Le Pèlerin ou autrement. C'est ma collègue Sylvie Latreille, qui est professeure en ecclésiologie à l'Institut pastoral, qui mènera cette entrevue pour nous. D'avance, je les remercie toutes les deux.
Bonjour Lita.
Bonjour.
Puis-je vous dire d'abord l'immense joie de vous revoir au Québec? Et je me disais, c'est un peu comme une belle visitation.
Merci.
Merci d'avoir accepté cette entrevue. Je pense particulièrement à toutes les personnes qui nous écoutent à l'heure actuelle. Je trouvais ça important d'abord de vous féliciter pour le prix que vous êtes mérité pour votre livre « Aimer sans dévorer ». Vous êtes lauréate du livre de spiritualité « Panorama la procure » et je pense que c'est vraiment une très belle reconnaissance de toute l'œuvre que vous avez publiée jusqu'à date. Alors, bravo! J'aimerais spécifier aussi que vous êtes doyenne de la faculté de théologie à l'Université de Neuchâtel. Vous êtes théologienne, vous êtes une femme pasteur, vous êtes philosophe, écrivaine, vous êtes aussi une militante et vous êtes directrice de la Revue internationale de théologie de spiritualité « La chair et le souffle », en plus d'être une maman et une mamie. J'ai fait le tour?
Oui.
Et pour aussi situer nos auditeurs, nos auditrices, vous avez publié des livres qui ont été extrêmement importants, à la fois dans votre itinéraire, mais aussi pour les personnes qui ont lu ce livre-là. Alors, je nomme entre autres « La Sainte Colère », hein? Jacob, Job et Jésus, la joie imprenable, qui a déjà quelques années, mais je lisais qu'il y a déjà une troisième édition qui est en cours, alors c'est très certainement un livre qui a été extrêmement important, et à l'heure actuelle, il y en a 11 livres, j'ai lu ça, le dernier qui vient de sortir, c'est « Aimer sans dévorer ». Maintenant, vous êtes à Montréal, vous avez été invité à l'Institut pour nous parler de l'accompagnement spirituel. Dans un tel parcours, Lita Basset, je me suis posé la question suivante. D'où origine votre intérêt pour cette question de l'accompagnement spirituel à ce moment-ci de votre vie?
Alors oui, c'est un intérêt qui est depuis très longtemps. Mon premier métier a été l'enseignement. J'étais professeure de philosophie à l'École internationale à Genève. Et par la suite, j'ai commencé donc le ministère pastoral. Vous avez mentionné tout à l'heure que j'étais pasteur donc de l'Église protestante de Genève. Et c'est dans le cadre de ce ministère pastoral que, au bout de, disons, 3-4 ans, j'ai commencé à avoir des demandes de personnes qui venaient m'écouter prêcher le dimanche et qui m'écoutaient dans les activités de paroissiales, ecclésiales, et qui, en quelque sorte, sentaient qu'elles pouvaient me faire confiance et venaient me demander de les accompagner dans des entretiens qui se sont mis en place tout naturellement à raison d'une fois par semaine ou une fois à quinzaine, mais toute une série de personnes. Et au fond, ça date de quasiment 25 ans et ça n'a jamais cessé, ça n'a fait que d'augmenter d'année en année. Et ce qui m'a frappé dès le début, c'est que j'avais jamais imaginé que je ferais ça. Et puis, je n'avais pas spécialement cherché des outils pour le faire. Mais par contre, j'étais en avance, entre guillemets, de 4 ans, en gros, par une démarche psychanalytique
que
j'avais entreprise et qui continuait. Donc, en quelque sorte, ça portait déjà du fruit, puisque les gens percevaient qu'ils pourraient trouver des outils pour avancer eux-mêmes.
Et déjà, par votre propre expérience, cela vous mettait en route, je dirais, et en confiance aussi pour commencer à accompagner des personnes.
Voilà, c'était vraiment quelque chose qui m'a été demandé, en quelque sorte. Quand je dis demandé par les êtres humains qui venaient vers moi, Et bon, par-delà cela, c'est clair que ça me, je peux le dire vraiment aujourd'hui, ça m'était demandé de plus grand que nous, de Dieu, du tout autre. Oui, c'est des choses qui sont très guidées là. On ne peut qu'être à l'écoute de ce vers quoi on est destiné en quelque sorte, ce à quoi on est destiné.
À partir de vos souvenirs, qu'est-ce que vous retenez de cette période de votre vie où, justement, des personnes sont allées vous rencontrer, vous étiez pasteur, cette relation de confiance qui s'établissait, qu'est-ce que vous avez retenu de ces rencontres, de ce moment?
Ce qui m'impressionnait beaucoup, c'était que j'étais vraiment en grand travail moi-même. C'était un grand, grand chantier. Et combien de fois j'allais dans les locaux paroissiaux, enfin là où je faisais les entretiens, et ma prière était « Prends quelqu'un d'autre, s'il te plaît ». J'étais tellement en chantier moi-même que je ne comprenais pas pourquoi il m'était demandé cela. Et pourtant, je voyais bien que ça fructifiait. Alors je dirais que je pense que ça sera probablement quelque chose que nous allons évoquer tout au long de cette entrevue. Il y a quelque chose de l'ordre de la compassion, là. Je pense que de visiter mes propres blessures et d'être tellement souffrante moi-même à l'époque, ça devait probablement ouvrir beaucoup de portes aux personnes qui venaient. Et je dirais qu'il y avait, là, vous avez mentionné l'identité pastorale. Je pense que la confidentialité est un facteur extrêmement important. Je pense que pour beaucoup de gens, c'était vraiment quelque chose de déterminant, que ce qu'ils allaient me confier, ça ne sortirait pas de la pièce.
Et cela a établi des relations de confiance très profondes. Mm-hmm. Avez-vous été témoin, je dirais, de revirements, de situations qui, par exemple, dans cette expérience d'accompagnement, c'est ce que je comprends, vous étiez à la fois accompagné et vous accompagniez des personnes. Avez-vous observé des revirements de situations qui faisaient en sorte que ça vous donnait de plus en plus, je dirais, confiance et foi dans cette forme d'accompagnement?
Ah oui, il y a eu vraiment, comme je le disais, ça fructifié. Je pense à une personne, une des toutes premières que j'ai accompagnée longtemps, peut-être 6 années d'affilée, était une personne extrêmement souffrante de par la culpabilité. Et c'est vraiment un cas parmi d'autres, hein, mais que je raconte là. Et je pense que là, le travail qu'elle a pu faire lors de cet accompagnement lui a permis d'aller voir quels étaient les traumatismes et les blessures qu'elle avait qui avaient provoqué cet enfermement dans la culpabilité. Et donc par un travail vraiment très approfondi avec elle, on a pu accéder à un vécu d'inceste, quoi, qui était totalement occulté, oublié, amnésié. Oui. Et cette personne, elle a vécu une véritable libération. Elle avait des grosses responsabilités professionnelles. Oui. Et sa vie a changé, vraiment. Ça ne s'est pas fait en 24 heures.
Non.
Mais il y a comme ça toute une série de personnes qui ont pu accéder à une histoire personnelle occultée, je dirais, amnésiée.
Et dans une mise en liberté qui a permis à ces personnes ensuite de fonctionner de manière beaucoup plus, je dirais, vivante.
Voilà, et qui leur a permis de se retrouver elles-mêmes.
J'ose vous poser ces questions à propos de votre propre expérience et votre pratique, je dirais, parce que ça nous aide à comprendre aussi de quelle manière vous définissez l'accompagnement. Pour vous, l'accompagnement spirituel, vous venez de nous en donner des exemples, mais comment est-ce que vous définiriez ça comme réalité?
Alors, c'est très étrange parce que, au fond, je l'ai pratiqué pendant de nombreuses années, même de façon assez confidentielle. Je veux dire, j'en faisais pas état et on n'en parlait absolument pas à cette époque. Mais je le pratiquais, je vous dis, sans interruption depuis quasiment 25 ans.
25 ans.
Mais c'est au fur et à mesure, et je dirais, surtout toutes ces dernières années où je suis dans l'enseignement universitaire, et surtout depuis 2004, où j'ai été nommée à plein temps à l'Université de Neuchâtel, avec un profil de poste qui était le dialogue pastoral et l'accompagnement spirituel.
De manière plus spécifique.
Voilà, et c'était la première fois dans ces facultés francophones protestantes de Suisse qu'une chaire entière était consacrée à l'accompagnement.
Et c'est à vous qu'elle a été confiée.
Exactement. Alors ça, évidemment, ça m'a donné beaucoup de temps et d'outils pour pouvoir approfondir, je veux dire, de manière un peu théorique, tout ce que j'avais énormément vécu de manière pragmatique ou intuitive, même si j'avais du bagage, j'avais quand même fait beaucoup de lectures, et puis j'avais quand même été professeur de philosophie avant, donc j'avais énormément d'outils sur le plan psychanalytique, psychologique. Mais alors, donc, toutes ces dernières années, c'est vraiment une mise en place des fondements, en fait, théoriques de l'accompagnement spirituel. Alors, ce que je dirais, moi, par rapport à votre question, la spécificité de l'accompagnement spirituel, c'est ma perception, hein. Ça veut pas dire
oui,
que c'est
quelque c'est, chose de... Oui, mais c'est celle-là qui m'intéresse, là.
Exactement.
C'est pour ça que je vous ai devant moi.
Alors, ma perception, c'est que souvent, on l'appelle psychospirituel, ce qui me convient assez parce que les outils psy, on va dire, sont complètement intégrés à cet accompagnement-là. Pour moi, c'est vraiment incontournable.
Oui.
Je dis encore une fois, pour moi. Oui. Et je pense qu'on sent très bien si un accompagnant spirituel n'a fait aucun travail sur soi-même. Ça se sent assez rapidement. Et que donc, pour moi, parce que j'avais intégré énormément les outils psy sans lesquels je ne serais certainement plus de ce monde, et ça m'a donné énormément de clés, d'outils pour finalement accompagner quelqu'un de manière à l'aider à dénouer un certain nombre de nœuds, à retrouver un certain nombre de blessures et de traumatismes enfouis, mais avec, disons, un souffle, une visée d'ordre spirituel. Et c'est là que je réponds plus précisément. Ce que j'ajouterais là, par rapport à la spécificité de l'accompagnement spirituel, c'est la référence à un tout autre. Alors, qu'on l'appelle Dieu ou pas Dieu, parce que Dieu aujourd'hui, tout le monde y met quelque chose de différent et c'est pas forcément parlant, mais on a d'autres manières d'évoquer cette transcendance.
Voilà.
Je peux en citer quelques-unes. Nous avons un auteur bien connu en Suisse, Georges Aldas, qui parle de la source
S majuscule. Avec un grand S.
Voilà, on a un auteur très connu en France qui est Maurice Bellet, qui lui parle de la divine douceur. Maintenant, si on veut penser aux Juifs, il y a tout un courant du judaïsme qui appelle Dieu la présence, la Shekinah, avec la présence avec un grand P. Moi, j'aime bien dire le vivant avec un grand V.
Un grand V.
Et au fond, peu importe l'appellation, pourvu que ça nous parle d'une tierce personne entre vous et moi. Je dis toujours, on n'est pas deux, on est trois dans un accompagnement spirituel. Et sans forcément faire des prières et des salam alek et toutes sortes de références ou de pratiques religieuses dans l'accompagnement, pas du tout. Ça peut, mais simplement, on le sait. Quand la personne vient me voir, elle sait que j'ai cette dimension-là et elle est ouverte à cette dimension-là.
Et cela permet une certaine altérité.
Complètement.
Et cette distanciation fait en sorte aussi que tout, vous l'avez tellement bien expliqué, être capable de pouvoir communier à sa propre expérience et sa propre souffrance ouvre ses horizons pour accueillir l'autre, à la fois dans ses souffrances et à la fois dans son cheminement. Mais la présence du tout autre, peu importe la manière qu'il sera nommé, comme vous dites si bien, nous amène bien à voir cette altérité qui va exister en deux personnes qui sont dans un processus d'accompagnement.
C'est exactement ce que vous dites, c'est l'entre-deux. Moi, j'aime bien l'appeler l'entre-deux.
L'entre-deux.
Aussi, parce qu'il y a cet espace qui est sacré, en quelque sorte, et qui, à la fois, est votre protection et la mienne. Qui est, en même temps, notre lien commun. C'est-à-dire que je peux... Si je vous accompagne, je vais respecter infiniment votre territoire, là où vous êtes. Et cet espace entre nous va aussi me garder mon propre territoire, mon propre espace. Et dans cet entre-deux, se passent des choses assez étonnantes parce que ça peut se mettre à vibrer et ça peut se mettre à nous inspirer... nous inspirer des paroles justes. Ça peut se mettre à nous ouvrir les oreilles d'une manière étonnante. Et il y a quelque chose là
qui est plus
comme
grand
je le dis,
soi,
c'est un peu plat de dire on n'est pas deux mais trois, mais c'est vraiment quand même ça.
Il y a quelque chose qui est plus grand que soi,
c'est ça,
le mystère de l'autre, recevoir le mystère de l'autre. Et ce que nous comprenons bien, c'est qu'on ne s'improvise pas dans l'accompagnement. On s'improvise pas accompagnateur du jour au lendemain. Alors,
j'aurais un deuxième point par rapport à la spécificité de l'accompagnement spirituel. Je dirais que là, je le vois aussi dans certains dialogues que j'ai avec des psychologues ou des personnes du domaine psy. Même s'il y a des psys qui sont ouverts à cette dimension et qui le disent explicitement, là, je vais enfermer personne, mais je dirais que pour moi, l'accompagnement spirituel, il a clairement pour visée d'amener la personne enfin, de l'accompagner jusqu'où elle va trouver sa dimension d'enfant de Dieu, enfin, pour dire ça comme ça. C'est-à-dire, cette dimension d'être quelqu'un d'unique et d'irremplaçable et d'infiniment précieux, et que cette découverte de son identité va vraiment éclairer le sens de sa vie. C'est au fond cette visée de pouvoir se rapprocher du sens de notre vie, d'où nous venons, où nous allons, qu'est-ce qui se passe après la mort, quel est le sens de la souffrance que nous traversons. Oui. Et c'est toutes ces questions tellement
fondamentales,
existentielles. Voilà, qui finalement sont, je crois, du ressort d'un accompagnement spécifiquement spirituel.
Effectivement, en d'autres termes aussi que vous avez déjà utilisé, cette visée, cette expérience est un processus d'unification.
Tout à fait.
Hein? Oui. De l'être dans toute sa profondeur, je dirais. Et
c'est ça. C'est ça. Et c'est ce qui fait que, au fond, chaque approche est nécessaire. Il y a des thérapeutes sur le plan corporel. Il y a tout le travail psychologique. Toutes ces choses sont absolument indispensables et je les opposerai jamais personnellement. Non. J'aime bien aujourd'hui, oui, de plus en plus conseiller à la personne que j'accompagne. Est-ce que vous semble-t-il pas que vous pourriez peut-être avoir de façon complémentaire avec ce que nous faisons tous les deux, mais que vous ayez aussi une thérapie corporelle, parce que peut-être toutes les personnes qui sont très cérébrales et qui disent, oui, c'est affreux, je suis complètement coupée de mes émotions, j'aimerais pouvoir me
reconnecter
oui. Et alors il existe maintenant vraiment beaucoup de moyens d'accéder à une thérapie corporelle qui va être complémentaire, ou dans d'autres cas ça va être, il y a encore beaucoup de travail sur le plan psychologique, mais ça peut être fait aussi de façon complémentaire. Et moi, quand la personne dit je ne veux voir personne d'autre et je suis bien à cheminer, oui, avec vous, ce que je me dis, c'est que au fond, tout le travail que j'ai fait pendant de très très nombreuses années, d'abord sur le plan psychologique et ensuite sur le plan corporel aussi, m'a outillé en quelque sorte de
pour
mieux
accompagner
de plus en
la
plus,
personne.
Oui. Même si je ne crois pas du tout que dans tous les cas, je sois la seule et une unique, non, et puis que je sois le sauveur de la personne.
C'est tellement intéressant ce que vous soulevez, parce que vous me faites voir toute la dimension multidisciplinaire,
oui,
de cette manière d'accompagner.
Complètement.
Hein?
Ouais,
ouais. Une diversité, parce, ouais, qu'on le sait combien, mmh, les personnes sont différentes.
Ouais.
Alors, si on réduisait à une seule approche,
ouais,
dans le fond,
fait,
on pénalise beaucoup de cheminement, ouais, et je dirais, qui est à banaliser. Hein.
Non, c'est extrêmement délicat, cet accompagnement spirituel, parce que s'il est bien fait, il devrait inclure toutes les dimensions.
Toutes les dimensions,
ouais,
de
dans le sens de... que je suis un peu mal à l'aise dans bien des cas quand on saucissonne, quand on,
oui,
coupe là, comme en tranche de saucisson, la personne nous dit « Ah, là, vous avez un problème corporel, alors vous allez là. Là,
oui,
vous avez un problème psy, alors,
oui,
mais chez le psy, on parlera de rien d'autre.
Oui. »
C'est très enfermant, tout
d'autant
ça.
D'autant plus si notre vision de l'être humain est un être en relation.
Oh, voilà, c'est ça.
Alors,
c'est
d'autant plus complexe. Lita, c'est tellement intéressant, j'en oublie le temps. Alors, nous sommes dans cette spécificité de l'accompagnement spirituel. Déjà, vous nous avez présenté des éléments extrêmement intéressants, mais je pressens que vous avez autre chose à nous dire. Alors, je veux vous entendre et j'ai une question après ça pour vous.
OK.
Mais allez-y.
Donc, c'est un petit peu c'est pas l'aboutissement, c'est là où j'en suis en ce moment. C'est
exact.
Que, donc, par la suite, il m'est venu à l'esprit de créer une formation à l'université de Neuchâtel. Donc, c'est de la formation continue, mais c'est un CAS,
oui,
ça s'appelle Certificat in Advanced Studies, et
c'est
donc un diplôme que décerne l'université, c'est 10 crédits en fait,
oui,
donc c'est quand même un travail assez conséquent,
oui,
et c'est un CAS en accompagnement spirituel. Et là, ce que j'amène de plus ici, c'est que en fait, le public cible, c'est toutes les professions qui ont affaire à l'être humain et qui souhaitent acquérir des outils qui, ouais, pourront donner une dimension spirituelle à leur pratique professionnelle.
Ah,
je vous dis, donne juste quelques métiers, parce,
oui,
que c'est assez,
oui,
fascinant.
Oui,
alors,
c'est fascinant.
On a été absolument abasourdis,
oui,
de le succès de cette formation.
Oui,
on n'arrête pas de la refaire et il y a de plus en plus
de
monde. C'est absolument incroyable. On va bientôt faire la troisième volée, mais c'est chaque fois plus du double de ce qu'on attend comme gens,
d'accord,
comme personnes. Alors, il y a des personnes du monde infirmier, bien sûr. Il y a des médecins, il y a des enseignants, il y a des éducateurs, il y a des assistants sociaux, il y a des personnes qui travaillent à l'État dans l'office des tutelles, dans le chômage, dans l'orientation professionnelle, dans il y a des juges, il y a des avocats,
des juges et des avocats. Là vous me
des gens qui travaillent dans les institutions pour les personnes âgées, des gens qui travaillent avec des personnes ayant un handicap mental ou physique. Mais vraiment une palette de métiers incroyable, ou médiation scolaire aussi. Et toutes, dans leurs travaux écrits, ils montrent comment ces outils-là, de l'accompagnement spirituel, ils les intègrent dans leur pratique professionnelle.
Dans leur propre pratique. Oui. Professionnel. Oui.
Donc vous voyez bien que c'est une conception de la spiritualité quand même très large, très ouverte. Alors disons l'enracinement de cette formation, c'est bien sûr la tradition chrétienne et ça c'est tout à fait clair. Oui. Et on leur donne vraiment des connaissances et des outils pour vraiment comprendre cette tradition et en tirer vraiment le maximum de fruits possible. Mais après, il y a une ouverture sur d'autres spiritualités, sur d'autres manières d'envisager cet accompagnement. Mais ce qui me frappe, c'est que cette soif-là,
elle est réelle
dans tous les métiers et dans toutes les couches de la société.
Extrêmement intéressant. Ouais. Parce que justement, ce n'est plus cloisonné seulement à une spécialité.
C'est ça.
Mais là, c'est vraiment une ouverture qui est là et qui permet d'aller plus loin.
Et qu'au fond, toute personne, là, dans le cas particulier, tout professionnel, qui a affaire à d'autres êtres humains, ressent de plus en plus la nécessité de cette dimension de spiritualité qu'on peut reconnaître à tout être humain, finalement.
Effectivement.
Et on n'a pas à dire, il y a une catégorie, c'est les croyants, et les autres ne sont pas concernés.
Tout ce qui concerne la question humaine, finalement.
Voilà. Avec ces questions fondamentales. Sa quête de sens, la quête
de la transcendance dont nous parlions tout à l'heure aussi. Effectivement. Lita, est-ce que l'étude des textes bibliques et la théologie posent un regard différent sur la spécificité de l'accompagnement?
Bien, vous savez, quand on fait, disons, déjà cette démarche personnelle très approfondie et puis que par la suite, assez rapidement même, on est sollicité, suscité pour faire bénéficier d'autres de ce qui a pu nous faire avancer, nous, alors on écoute les textes avec d'autres oreilles. Et moi, ça m'est arrivé assez vite, je ne peux pas faire autrement que d'entendre certains textes dans la profondeur de là où je suis allée, moi, ma profondeur, disons. Peut-être je pourrais donner un ou deux exemples.
Oui, j'aimerais.
Alors, c'est justement toujours de cette manière que ça se passe, c'est que... J'entends un texte dans un office ou peu importe où je le lis. Enfin, il y a un texte qui vient me frapper et qui vient me frapper très en profondeur. Et suivant ce que je suis en train de traverser, il peut devenir très aidant pour moi. Et alors, si c'est le cas, et je me souviens très bien dans quel contexte il est devenu aidant et s'est mis à vibrer comme ça en moi, et je peux, dans le cadre d'un entretien, dire à la personne, ce que vous êtes en train de vivre, ça me fait penser à une petite parole. Ça peut être un demi-verset, ça peut être quelques mots, mais qui, pour moi, à une certaine période de ma vie, ont été extrêmement aidants. Alors, je vous le partage. Vous en faites ce que vous voulez. Peut-être ça ne vous parlera pas du tout, mais je vous le partage. Alors, je peux justement, devant ce micro, en citer deux qui me viennent tout de suite à l'esprit. C'est, il y a une parole de Jésus dans l'Évangile qui dit « Rien n'est caché qui ne viendra à la lumière ». Oui. Et rien n'est secret qui ne sera connu. Alors, bien sûr que c'est dans un contexte très précis.
Très précis.
Il ne faut pas négliger ce contexte. Mais moi, dans une certaine période de ma vie où je désespérais d'avoir accès à ce qui était resté secret dans mon histoire et qui m'empêchait de vivre, et justement, je faisais allusion à tous ces traumatismes et ces blessures qu'on refoule parce qu'elles sont insupportables. Et dans cette période-là, j'ai entendu ce verset, ça a été, je l'ai entendu comme une promesse. J'ai entendu très fortement, ne t'en fais pas, ça prendra le temps que ça prendra, mais de toute façon, tôt ou tard, ce qui est secret viendra à la lumière. Et ce qui est caché viendra au jour. Et c'est une promesse de Jésus d'une certaine manière. Et cette parole-là, de me la répéter, ça m'a vraiment redonné du courage, parce que la tâche, quelquefois, est longue.
Elle est très longue et lourde.
Et lourde. Et de le partager à des personnes en leur disant, mais de toute façon, c'est quelque chose qui... Et puis, c'est une telle conviction pour profond. Moi, parce que je l'ai vécu moi-même, que du coup, c'est comme communicatif dans, oui, dans oui. l'entretien, dans, le, oui. dans la conversation.
D'ailleurs, je me disais, en vous écoutant, peut-être qu'il y a des personnes qui, présentement, sont à l'écoute et qui, justement, revisitent ces paroles hein, de l'Évangile qui ont permis, à un moment donné, de dénouer des situations, de donner du courage, semer l'espérance et de rester debout. Hein,
ouais, tout à fait.
Et de rester debout.
Et de rester debout, ou en tout cas, de continuer à bien vouloir se,
se relever. Voilà. Hein, ne pas oublier la posture d'être qu'un jour on veut être debout. Ouais, hein.
C'est ça le but. Effect... Hein. Oui. Alors maintenant, l'autre exemple, c'est dans ces périodes où, vous savez, il n'y a plus rien qui tient debout. Et où on est comme pris de vertige parce qu'on n'a plus aucun repère. Il s'est produit quelque chose dans notre vie qui nous a vraiment fait perdre tous nos repères. Oui. Et où c'est aussi quelquefois un travail qui vient de notre histoire, de notre passé lointain qu'on
revisite
et qui émerge. Et où on est dans cette perte de repères, à plus savoir à quoi se raccrocher. Oui. Et dans cette période-là, dans ces périodes-là, combien de fois la petite phrase minuscule, mais si lourde de sens. Que Jésus répété plusieurs fois dans les évangiles, « Moi, je suis. »
Ah.
Et cette parole-là, je me l'appropriais et j'en faisais ce que les orthodoxes appellent la prière du cœur.
Oui.
C'est une façon de répéter, au fond, un peu comme un mantra.
Un mantra.
Et c'est un mantra qui n'est pas anodin, puisque c'était quand même une phrase qui habitait énormément Jésus. Et c'est... Je l'ai testé tellement de fois que, prise dans ce vertige-là, répéter comme ça... moi je suis, moi je suis, moi je suis, ça me réenracinait dans mon être et que j'allais pas être pulvérisée en mille morceaux et que j'allais retrouver du sol ferme sous mes pieds. Et je l'ai souvent proposé dans des accompagnements et même, figurez-vous, à un homme qui se disait fondamentalement athée. Et il avait une femme qui s'était suicidée et il portait une culpabilité depuis des années et cette parole l'a libéré, figurez-vous, parce qu'il a repris pied avec cette
c'est
parole.
C'est comme une encre. Hein?
Oui,
ça
une
permet
exactement.
Justement là, ouais, de ouais, s'ancrer ouais, ouais. et de ne pas perdre c'est pied ça. Parce qu'on l'a c'est déjà
ça.
Perdu
c'est
pied.
C'est ça, on a perdu
hein?
pied.
On a déjà
et puis,
perdu pied.
Comme on est pris dans un mental qui va à toute vitesse et qui décuple cette impression d'avoir plus aucun repère, alors c'est vraiment comme un mantra. C'est fascinant de voir que dans d'autres religions, on arrive à cette même pratique de répéter une petite parole qui est lourde de sens et qui on n'a plus à réfléchir, on se concentre juste sur répéter moi je suis.
Savez-vous à quoi ça me fait penser comme image, Lita? La petite flamme, hein? La plus petite flamme, même dans la noirceur la plus totale, va éclairer d'une manière inouïe, effectivement, parce que c'est tout ce qui reste. C'est cette petite flamme au moment où...
Mais là, il y a quand même quelque chose de très mystérieux dans cet exemple que je donne là.
Oui.
Vous êtes d'accord? Parce
que
dans le fond... Qu'est-ce qui fait que petit à petit on se reconnecte à l'être grand E, c'est-à-dire appelons-le comme on veut.
Oui.
Mais quand Jésus disait moi je suis, bien sûr ça fait référence au Dieu de la tradition judéo-chrétienne,
la
tradition
Yahvé.
Moi je suis qui je suis, je serai qui je serai. Mais c'est cet enracinement dans un être indestructible. Comment ça se fait que de répéter cette parole
permet
progressivement nous reconnecte à lui?
Oui.
C'est incroyable.
C'est extraordinaire. Oui. Hein?
Et ça, c'est vraiment la spécificité de l'accompagnement spirituel.
De l'accompagnement spirituel. Savez-vous, Lita, nous allons aller à la pause et au retour, j'aimerais vraiment que nous puissions parler de l'écoute et de la confiance accordée à la parole.
OK.
Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre, que serais-je sans toi, que ce balbutiement? J'ai tout appris de toi sur les choses humaines, et j'ai vu désormais le monde à ta façon. J'ai tout appris de toi, comme on boit aux fontaines, comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines, comme on passant qui chante, on reprend sa chanson. J'ai tout appris de toi, jusqu'au sens du frisson. Que serais-je sans toi, qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi, qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre. Que serais-je sans toi, que ce balbutiement. J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne. Qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu. Que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne. Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux. Tu m'as pris par la main comme un amant heureux. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre. Que serais-je sans toi, que ce balbutiement. Qui parle de bonheur a souvent les yeux tristes. N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue? Une corde brisée au doigt du guitariste. Et pourtant je vous dis que le bonheur existe ailleurs que dans le rêve, ailleurs que dans les nues. Terre, terre, voici ces rades inconnues. Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre? Que serais-je sans toi qu'un cœur au bois dormant? Que cette heure arrêtée au cadran de la montre. Que serais-je sans toi, que ce balbutiement.
Vous écoutez Foi et Turbulence.
Nous sommes de retour avec Madame Lita Basset. Plus je vous écoute, Lita, plus je m'aperçois que l'accompagnement spirituel, c'est plus qu'une relation d'aide. Et elle prend son départ dans l'écoute. Mm-hmm. Est-ce qu'on pourrait dire que la tâche de l'accompagnement spirituel concerne cette écoute de soi, celle de l'autre qui est devant moi, et celle du tout autre
aussi? Oui, tout à fait.
Mm-hmm. Et cette écoute sans jugement, comme le précise Maurice Bellet, oui, dans son livre « L'écoute », hein, mm-hmm, il écrit, je le cite, « L'écoute peut donner d'entendre en soi-même l'inavouable jusqu'à ce qu'il se dénoue et que soit libre la puissance non mesurable qui était serrée là. » Cette écoute, comment la percevez-vous dans le processus de l'accompagnement?
Alors, je crois que vous l'avez tout à fait dit, c'est-à-dire que plus je me mets à l'écoute de qui je suis, dans les limites de ce que je connais de moi-même, évidemment, plus je vais être à l'écoute d'un peu plus de ce que je ne savais pas de moi-même, et tout ça va se passer dans cet espace de dialogue dont nous parlions au début, donc le dialogue avec l'autre. Ce que vous allez me dire je vais le prendre et ça va me faire aller peut-être encore plus profondément dans l'écoute de moi-même. Et puis, dans cette profondeur-là, ou disons, avec une autre image, dans cet espace entre nous deux, il y a ce tout autre qu'on perçoit peut-être pas tout de suite, mais qui est vraiment justement ce mystère de l'inconnu au plus profond de nous-mêmes. C'est presque une alchimie, ou je sais pas quelle image il faudrait prendre, parce que je peux pas faire ça toute seule.
Impossible.
Le fait de vous avoir comme un vis-à-vis, qui me posez des questions, moi qui essaye de répondre au plus près de qui je suis, ça va me faire descendre progressivement dans cette écoute du tout autre qui se trouve entre nous deux, mais aussi tout au fond de chacune de nous. Et il y a une parole qui me touche beaucoup dans le livre d'Osée, qui est un prophète de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque. Et il dit, c'est Dieu qui dit à ce moment-là, « Dans tes entrailles, je suis saint. » Ce qu'on pourrait dire dans tes entrailles, je suis le tout autre, le complètement différencié, celui qu'on ne peut pas enfermer dans une boîte qui est vraiment, qui nous échappera toujours. Le tout autre, mais qui en même temps est dans tes entrailles, dans ton intimité la plus intime.
Hein, c'est ça. Cette proximité, effectivement, qui fait corps avec la personne.
Et là, il n'y a rien qui me réjouit autant quand j'accompagne quelqu'un que quand la personne fait cette expérience de ressentir cette présence du tout autre, tout au fond de soi, jusqu'au plus intime de son intériorité.
Ça me fait penser à l'image, justement, quand on porte un enfant.
Oui, oui, exactement.
Hein? Sentir cette présence.
Ça peut être un tout petit, petit, petit.
Tout petit.
Et puis,
mais
après,
la vie vient de changer.
Jour, ça se met à bouger.
Effectivement. Et dans cette écoute, cela suppose que la personne qui est devant vous prenne parole. Mm-hmm. Nous sommes des êtres de parole. Et comment est-ce que vous disiez vous-même faire confiance à la parole? Rendre la parole à quelqu'un, c'est lui rendre justice.
Oui, je dis ça. Parce que je suis très frappée de voir le nombre de personnes qui n'ont jamais été écoutées. Quand je dis écoutées, c'est prise en considération dans leur parole. Et combien de fois quelqu'un nous dit... Je ne l'ai jamais dit à personne. Donc finalement, j'en suis arrivée à me dire, mais la première justice à rendre à quelqu'un, c'est de lui laisser la parole, de lui donner la parole et d'être à l'écoute de ce qu'elle dit. Donc ça peut paraître banal, mais aujourd'hui quand même, on vit dans une société où on prend pas beaucoup le temps d'écouter les autres.
Et pourtant, il y a tant de paroles. Mmh. Vous êtes d'accord
je
avec
sais,
moi?
Je sais, nous ça n'arrête pas dans... de parler.
Exactement.
Et nous aussi!
Là, c'est très bien dit. Mais effectivement, c'est très intéressant comme perception des choses, de dire, c'est de rendre justice. Mmh. J'avoue que pour moi, c'était très neuf. Quand j'ai lu dans vos textes cette expression, et je me disais, Lita, pourquoi commencer par la justice?
Ben oui, parce que, ben justement pour la raison que je viens de dire, c'est-à-dire que, et puis il y a aussi le fait que la justice, elle nous colle à la peau, hein. Dans le sens que là, je me réfère à un autre livre de l'Ancien Testament, de la Bible hébraïque, l'Ancien Testament, où il est dit, dans un texte d'Ésaïe, où il est dit, la justice a été la ceinture de ses reins, ou de ses hanches, enfin. Et on parle d'un tout petit enfant. Dans tout ce texte-là, on parle d'un petit enfant. Et je me dis que, en fait, s'il y a une chose qu'on n'a jamais perdue, c'est le sens de la justice. Même si on a été très massacré par la vie, même si on n'a plus confiance en personne, la justice... Enfin, je suis peut-être en train de généraliser, mais pour moi, rendre... Il y a une chose que je voulais dans ma vie, c'est qu'on me rende justice. Et ça m'est arrivé tellement de fois de me dire, mais je crois que j'aurais pas assez de, non seulement de toute ma vie, mais de toute mon éternité pour me sentir réhabilité. Et je crois qu'on est très nombreux dans ce sens, parce que se sentir réhabilité, c'est vraiment quelque chose qui nous, parce que la justice, on l'a dès la naissance. Et d'ailleurs, chez les enfants, s'il y a quelque chose qui est frappant, c'est à quel point les enfants ont le sens de la justice. Là, ce qu'un enfant va dire très facilement, c'est pas juste.
Effectivement. Et nous-mêmes, dans les moments les plus difficiles de notre vie,
on dit c'est pas juste.
C'est pas juste.
Oui, exactement.
Effectivement.
Oui. Donc, c'est à mon avis quand même le béaba de l'accompagnement, c'est vraiment commencer par laisser la personne s'exprimer et recueillir et accueillir ce qu'elle dit et prendre en considération ce qu'elle dit.
Et la responsabilité devient très grande parce que dans une telle relation et un tel rapport, ça montre bien que la personne qui est devant moi, si mon souci c'est de lui donner la parole pour que cette justice puisse lui être, je dirais, comme reconnue
tout
et accordée, la responsabilité de l'accompagnateur ou de l'accompagnatrice est très grande.
Oui, tout à fait. Et c'est là que je pense que l'accompagnement spirituel va de pair avec quand même un grand désir d'être à l'écoute de Dieu, du tout autre, peu importe comment on l'appelle, et d'être donc peut-être dans une attitude de prière. Moi, je vous avoue que les entretiens, non seulement avant ou après, mais quelquefois même pendant l'entretien, quand j'entends des choses tellement difficiles et que je me dis, mon Dieu,
que
mes mots soient justes ou que mes silences soient justes, mais inspire-moi. Pour que quelque chose de toi, le vivant avec un grand V, puisse rejoindre cette personne.
Tout à fait. Un mot, une parole, un regard,
ou un silence. Voilà, une attitude corporelle.
Effectivement, qui fasse en sorte qu'il y a un dénouement.
C'est ça.
Que quelque chose se passe. C'est extrêmement important, il me semble, ce que vous mentionnez, parce que quelqu'un qui accompagne une autre personne peut se placer dans une espèce de situation, de posture de sauveur et dire « bon, faut pas que je manque mon coup ». Et alors que vous nous montrez bien que nous sommes appelés à la plus grande fragilité de l'être à partir du moment que j'accepte faire un bout de chemin avec une autre personne.
Et ça veut dire que mon souci ne va pas être « qu'est-ce que je fais moi en tant que professionnelle, etc. » mais mon souci va être que je ne me laisse pas parasité par ce qui n'est pas vivant et ce qui n'est pas aidant, que je me laisse traverser par ce tout autre. Mais c'est lui qui fait, d'une certaine manière. Et ce que ça me permet de dire, sans trop rouler le mécanique, ça me permet de dire que je peux aligner plusieurs entretiens d'une heure sans être fatiguée.
Ça vous permet cette
distance. Je ne suis pas fatiguée au bout parce que j'ai tellement la conviction que ce n'est pas moi qui fais, que ça se passe dans l'entre-deux.
J'ai un ami, Lita Zénon, qui a cette même... Vous le connaissez?
J'en ai entendu parler.
Alors, Zénon, qui a exactement cette même attitude, comme vous dites, et qui disait, non, même à la fin de la journée, je ne suis pas fatiguée.
Parce que ce n'est pas moi qui fais.
Ce n'est pas moi qui fais, effectivement. Mais ça produit, je dirais, des miracles, par ailleurs, auprès des personnes qui ont été accompagnées.
Mais ça veut dire vraiment avoir cette discipline personnelle de lâcher les commandes et de me laisser traverser. Par contre, ça veut dire aussi que à la personne, je dis, je vous prends dans mon cœur, je vous prends dans ma prière.
Je vais vous porter.
Voilà. Pendant que on va pas se voir jusqu'à la prochaine fois, mais soyez certains que je vous prends dans mon cœur et dans ma prière.
Se porter les uns les autres.
Exactement. Hein?
Tout à fait. Que diriez-vous des enjeux de l'accompagnement? Nous avons beaucoup parlé à l'heure actuelle à partir de votre expérience, la pratique, comment cela s'est inscrit dans votre propre parcours. Mais maintenant, il y a sûrement des enjeux qui...
Je dirais que peut-être si on... parce qu'on n'en avons pas énormément de temps, et puis on ne va pas détailler ça indéfiniment, mais si on voulait grouper tous les enjeux et les ramasser en un enjeu principal et essentiel, je dirais que c'est la libération de la personne.
La libération de la personne.
Et quand je dis libération, je me connecte complètement, justement, à l'accompagnement spirituel enraciné dans la tradition chrétienne, puisque somme toute, la personne qui nous inspire, c'est le Christ. Le Christ, le Messie en hébreu ou le Christos en grec, c'est toujours le même mot. Le mot veut dire le libérateur.
Le libérateur.
Et moi, j'aime bien l'appeler le libérateur avec un
grand L.
Parce que, au fond, qu'est-ce qu'il a fait d'autre que de venir nous dire, mais il y a un chemin possible pour s'en sortir, pour vraiment être libéré de tout ce qui nous tire en bas, nous retient dans la mort. Et ce chemin-là, vous ne pourrez pas le parcourir sans être avec quelqu'un ou dans un dialogue avec quelqu'un, en proximité avec quelqu'un. Au fond, ça rend toute leur place aux humains. Nous sommes là, les uns et les autres, pour nous accompagner mutuellement. Mais l'enjeu, c'est vraiment que nous puissions avancer les uns et les autres vers une liberté de plus en plus grande. Vous me demandiez de vous dire qu'est-ce qui est pour moi le plus frappant dans la personne du Christ, de Jésus,
poser la question. Laissez-moi vous la poser. Qu'est-ce qu'il y a pour vous de plus grand et de plus frappant dans la personne du Christ?
C'est vraiment la liberté.
C'est la liberté fondamentale.
Ah, mais vraiment, la liberté, c'est ce qui m'a toujours frappée chez Jésus. Et je sens que je suis complètement destinée à cette liberté et je peux dire que je la goûte de plus en plus ça fait tellement de bien que j'ai envie d'aider les autres et d'accompagner les autres pour qu'ils puissent la découvrir aussi.
Effectivement. C'est un long chemin.
C'est un long chemin.
Nous savons que c'est un long chemin, celui de la liberté.
Oui, mais alors, l'important est de marcher.
Je suis d'accord et il est possible, effectivement, de pouvoir faire ce bout de chemin-là. Aujourd'hui, Lita Basset, qu'est-ce qui vous donne du souffle à ce moment-ci de votre vie?
Bon là, le mot souffle, évidemment, me renvoie immédiatement à mon dernier livre, « Aimer sans dévorer », puisque...
Effectivement, c'était pas en
c'était
hein?
ça. j'avais envie beaucoup de travailler cette question de l'Esprit Saint, qui est quand même en plein cœur de la tradition chrétienne. Mais aujourd'hui, l'Esprit Saint, il y a beaucoup de gens à qui ça ne dit rien du tout. Et au fond, ça fait du bien de se souvenir qu'Esprit, en grec, c'est pneuma, et c'est le souffle.
C'est le souffle.
Et c'est le souffle, et c'est le vent même. Et ce souffle-là, donc le souffle saint, j'ai trouvé qu'à l'époque de Jésus, il y avait... dans un courant du judaïsme, je ne vais pas entrer dans les détails, mais on a pu appeler ce souffle d'origine divine le souffle d'amour. Et je me suis dit, mais ça, c'est vraiment aujourd'hui, si vous dites aux gens Esprit Saint ou Saint-Esprit, les gens ne comprendront pas grand-chose. Mais si vous dites souffle d'amour, tout le monde comprend.
Oui, dans un monde essoufflé.
Essoufflé.
En plus, on est d'accord.
Et donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé très parlant pour notre temps, pour notre époque. Et donc c'est toute cette réflexion qui a suivi sur l'origine de ce souffle que nous ne connaissons pas, dans le sens nous ne pourrons pas mettre la main sur l'origine de ce souffle, nous ne pouvons pas nous-mêmes le créer, mais c'est un peu ce qu'on disait pour l'accompagnement, c'est qu'en fait il nous vient d'ailleurs. Oui. Jésus disait, tu ne sais pas d'où il vient ni où il va.
Une chance.
Ouais, une chance. Nous qui gérons tout aujourd'hui.
Effectivement.
Voilà, quelle chance. Hein.
Quelle chance inouïe.
Oui. Et donc, ça rejoint aussi l'accompagnement, mais dans notre vie de tous les jours, c'est sûr qu'on peut vivre de manière beaucoup plus légère en nous disant, de toute façon, moi, je fais ce que je peux à mon échelle, avec mes moyens, mais ce qui donnera du souffle, notamment à mes relations affectives, mais à ma vie de tous les jours, c'est quelque chose qui viendra de beaucoup plus loin et qui ira très loin aussi, ouais. Mais qui me traversera. Et au fond, ça veut dire que la seule chose qui m'est demandée, c'est de travailler aux obstacles, à ne pas mettre des obstacles à ce souffle, à ne pas boucher le canal. Enfin, je prends des images différentes.
Effectivement.
Ou une autre image... ça me poussera à sortir de ma maison, de ma chambre où j'ai fermé toutes les portes et les fenêtres pour m'exposer au vent, pour m'exposer justement à ce souffle et à l'inconnu. C'est ce que beaucoup de gens ne supportent pas, et moi-même aussi à certaines périodes de ma vie, c'est trouvé très difficile, de s'exposer comme ça à l'imprévu, on ne sait pas où il va nous amener aussi, parce que il y a une image qu'ils aiment beaucoup en Suisse, c'est quand je dis on est poussé dans le dos. Et puis on sait pas où on va aller. On sait où on était ici là en ce moment, mais on sait pas où ça va nous amener.
Une des images que nous allons employer au Québec, c'est dire sortir de notre zone de confort.
Voilà, tout à fait.
Effectivement.
Tout à fait. Parce que il y a quelque chose de plus fort que nous qui nous dit à l'intérieur, tu ne vis pas en plénitude. Tu pourrais vivre beaucoup plus en abondance. Il pourrait y avoir un sentiment de d'épanouissement, d'accomplissement beaucoup plus grand.
D'ailleurs, n'est-ce pas la quête de toutes nos contemporaines, nos contemporaines, justement.
C'est
cette quête,
c'est clair.
À la recherche.
Ouais. D'une vie qui soit pas juste, comme on dit, métro, boulot, dodo.
Effectivement.
Où je fonctionne. Il y a des gens qui disent je fonctionne. Oui. Je survis.
Je survis.
Alors, c'est vraiment cette quête-là. Et c'est vrai qu'on ne le fera pas sans se laisser déplacer. Et au fond, l'image du souffle, c'est quand même se laisser déplacer.
Effectivement.
Et je peux me laisser déplacer par vous, par quiconque je rencontre, et ou par tel et tel événement, je peux laisser... par des lectures.
Un film.
N'importe quoi est bon pour ce souffle, pour se mettre à nous pousser dans le dos, pour nous emmener dans une direction qu'on n'avait pas prévue.
Et aujourd'hui, ce souffle, il vous amène où?
La certitude, je dirais, qui s'est installée, mais ça a pris longtemps, parce que j'ai quand même eu une vie... avec des drames à répétition et des choses vraiment très destructrices. Et longtemps, j'ai eu le soupçon, mais est-ce que tu peux vraiment faire confiance à cette vie? Qu'est-ce qu'il va encore y avoir qui va te tomber dessus? Et ça m'a totalement passé. Mais c'était long. Donc,
long
si vous voulez, ce souffle, maintenant je sais, par expérience, qu'il ne me veut que du bien.
Parce
qu'il m'amènera que vers quelque chose qui sera bon pour moi.
Parce qu'à travers tous ces moments très durs que vous avez vécu, vous avez pu expérimenter cette présence et ce souffle.
Et même si, pas toujours. Et même si, en tout cas, pas 24 heures sur 24. Non. Et même si il y avait des périodes horriblement longues où c'était le noir total. Mais je dis aujourd'hui, j'ai suffisamment engrangé d'expériences où j'ai pu voir à quel point ce souffle était un souffle bienfaisant, qui me pousse toujours vers ce qui sera bon pour moi. Et si c'est bon pour moi, ça sera bon pour d'autres aussi. Hein.
Oui.
Ça, maintenant, je crois que ça y est, c'est dans mon disque dur.
Là, c'est intégré.
Je l'ai engrangé.
Engrangé, oui, c'est intégré.
Oui, oui, oui.
D'où ce souci, cette sensibilité à pouvoir, justement, publier à ce sujet,
oui,
pouvoir en parler,
en parler
et répandre.
Parce que finalement, pourquoi je le garderai pour moi?
Oui.
Si quelque chose a été aidant pour moi, ben, j'ai envie de le partager parce que, éventuellement, ça peut être aidant pour quelqu'un d'autre. Et ça peut redonner précisément du souffle à quelqu'un d'autre. Et au fond, pourquoi aussi me mettre à l'abri de ne pas m'exposer en disant des choses trop personnelles et tout? Qu'est-ce que j'ai à perdre?
On n'a plus rien à perdre. Mais ça va de concert avec la liberté dont nous parlions tout à l'heure.
Complètement.
C'est ce qui permet justement un jour de réaliser qu'avec nos cheveux blancs apparaissent aussi peut-être un peu comme une grâce inouïe, hein, de dire mais qu'est-ce que j'ai à perdre?
Rien.
Lita, ça a été magnifique de perdre mon temps avec vous. je vous remercie très sincèrement.
Ce fut un plaisir pour moi aussi.
J'encourage les personnes qui nous écoutent présentement. Si vous avez un cadeau à vous offrir ou un cadeau que vous aimeriez offrir à la personne que vous aimez, allez chercher Aimer sans dévorer. L'image est extraordinaire, hein? Aimer sans dévorer.
Ça veut dire aussi sans se laisser dévorer.
Oui, c'est très bien dit. C'est l'auteur qui vient de le préciser. Et merci pour votre séjour au Québec et vous savez que vous êtes toujours la bienvenue.
Merci beaucoup.
À la prochaine.
À la prochaine.
Un immense merci à Mme Lita Bassett de l'Université de Neuchâtel en Suisse pour sa contribution et sa réflexion sur l'accompagnement spirituel. Et merci aussi à ma collègue Sylvie Latreille, professeure à l'Institut de Pastoral, qui a animé pour vous cette rencontre. Vous trouverez sur le site Internet de l'Institut de Pastoral quelques références ainsi qu'un lien vers la page personnelle de Mme Lita Bassett qui inclut l'ensemble de ses diverses publications. L'adresse du site Internet de l'Institut de Pastoral est www.ipastorale.ca. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette émission. Merci aussi à Hélène et à Nathalie pour leur soutien technique et à Louis Lesage qui coordonne l'ensemble de cette série « Foi et turbulence ». Au microphone, c'est Francine Robert. Je vous souhaite une excellente journée sur les ondes de Radio Ville-Marie.